France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
C'est vrai que par rapport au programme, on est forcément obligé de s'adapter puisque pour ces enfants, c'est comme si c'était une langue complètement étrangère.
Il y a certains élèves qui sont décrocheurs, pour qui le simple fait de s'installer à une table, rentrer dans la salle de classe, c'est déjà quelque chose d'énorme.
Il y a l'argent facile parfois dans certains quartiers difficiles où être une mule rapporte beaucoup plus qu'aller à l'école. Le gain de l'argent facile permet à certains de nos élèves de décrocher facilement aussi.
Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à une grève de la surveillance du bac le 17 juin. Opposés à la réforme du lycée et du baccalauréat, ils critiquent aussi le projet de loi pour une école de la confiance et reprochent au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, de ne pas entendre leurs inquiétudes et revendications. En Guyane aussi, des enseignants redoutent la destruction du système éducatif. Le mois dernier, les syndicats guyanais se sont mobilisés devant le rectorat à Cayenne, réclamant la prise en compte des réalités locales et disant leur crainte que le projet gouvernemental ne génère plus d'échecs scolaires. Car dans cette région d'outre-mer, immense zone d'éducation prioritaire, la moitié seulement d'une classe d'âge arrive au bac et le décrochage scolaire atteint 40%, 4 fois plus qu'en métropole. Un chiffre qui s'inscrit dans un contexte d'importantes inégalités sociales. En Guyane, un ménage sur trois vit sous le seuil de pauvreté, 30% des familles sont monoparentales, le taux de chômage concerne 19% de la population active et touche tout particulièrement les jeunes. Autant dire l'importance de l'enjeu éducatif, sachant que l'apprentissage du français est déjà loin d'être une évidence dans une région où un habitant sur trois est de nationalité étrangère. L'école de la confiance, un défi pour la Guyane, c'est un reportage signé Hakim Kasmi. Et dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Votre présence a d'autant plus de sens pour nous aujourd'hui que vous avez occupé les fonctions de recteur de l'Académie de Guyane de 2004 à 2006. Vous aurez donc certainement beaucoup à nous dire une fois que vous aurez écouté le reportage d'Hakim Kasmi en Guyane. Hakim, pour l'Académie de Guyane, il y a un objectif prioritaire, la lutte contre le décrochage scolaire et la non-scolarisation.
Oui, c'est un véritable défi, Aurélie, car la population a doublé depuis 20 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Guyane, eh bien, la moitié de la population a moins de 25 ans, ce qui est un véritable défi. Défi aussi parce que une grande partie des jeunes n'ont pas toujours accès à l'école. La Guyane est aussi grande que le Portugal. Il y a beaucoup de zones reculées, avec notamment beaucoup de familles qui vivent en Amazonie. Une hausse démographique qui grimpe, avec aussi des écoles qui, elles, ne suivent pas toujours, car pour construire une école, il faut beaucoup de temps, mais aussi des enseignants.
Merci Hakim, nous partons tout de suite avec vous à Saint-Laurent-du-Maroni.
Alors, je suis Cédric Sandman, directeur du groupe scolaire Bissouane. On est dans le quartier de Balaté à Saint-Laurent-du-Maroni.
Alors combien d'élèves y a-t-il dans cette école primaire?
Il y a 321 élèves, 15 classes.
Avec une particularité, beaucoup d'élèves non francophones.
Voilà, c'est ça, beaucoup d'élèves non francophones. 80%, 80% chaque année, il y en a beaucoup.
Comment on l'explique?
Par rapport à la culture, le Suriname aussi qui est en face, les populations qui se déplacent, voilà.
C'est un véritable défi pour vous?
Un très très grand défi. C'est une barrière, la langue, une barrière qui empêche la réussite des élèves. Mais grâce à cette barrière, ça nous permet d'imaginer d'autres dispositifs. Qui les amène à la réussite scolaire.
Alors il y a différentes langues, il n'y a pas que le bushinengue qui est parlé ici.
Non, il n'y a pas que le bushinengue, il y a l'arawak, il y a le kalinya, il y a le surinamais, le brésilien, nous avons un peu de tout.
Du coup, pour le directeur que vous êtes, ainsi que pour vos enseignants, ça demande une grosse adaptation pédagogique au quotidien, dans les classes, comme on va le voir maintenant.
Voilà, c'est ça. Grosse adaptation.
Voilà. Et là, on va arriver dans une classe de quel niveau?
CP. CP, quasiment une classe bilingue.
Lapin. Un lapin. C'est bon, tirez. Allez, on passe à l'autre mot. Le pantin.
Francesca est institutrice en classe de CP bilingue. Native de Saint-Laurent-du-Maroni, elle maîtrise parfaitement les différentes langues parlées par les élèves, ce qui lui permet de mieux les accompagner.
Vous fermez le cahier, on va corriger plus tard.
Est-ce que vous expliquez ce que vous faites avec eux?
Donc ce matin, on faisait une dictée avec le 101. Donc il y avait des syllabes et des mots contenant le 101. Donc il y a une partie de la classe qui n'ont écrit que les syllabes et l'autre partie qui devait écrire les syllabes et les mots contenant le 101.
Alors ici, la particularité, c'est que dans cette école, 80% des enfants ne parlent pas le français en première langue. Ils sont de différentes ethnies. Vous, d'un point de vue pédagogique, comment vous vous adaptez par rapport à une classe classique francophone ?
J'ai toujours enseigné ici, en fait, donc je suis habituée à ce public. Donc c'est vrai que par rapport au programme, aux enseignements, on est forcément obligé de s'adapter puisque pour ces enfants, c'est comme si c'était une langue complètement étrangère. Mais en même temps, je suis aussi locuteur de leur langue. Donc, je parle leur langue, donc ça peut aussi me permettre de comprendre leurs difficultés et de mettre en place des dispositifs qui permettent en fait une meilleure compréhension et de s'imprégner la langue en fait.
Alors par exemple concrètement, quel type d'exemple employez-vous en termes de pédagogie pour apprendre le français ?
Donc en fait on n'utilise pas vraiment leur langue pour entrer dans le français, mais on utilise souvent leur langue pour débloquer des situations. Par exemple en mathématiques, on voit bien que parfois l'élève est bloqué par rapport à un problème de compréhension de la langue. Par contre, ce qui a été mis en place dans cette classe, c'est l'apprentissage de la lecture dans leur langue, en fait. Et ici, le fait d'apprendre à lire dans leur langue avant d'apprendre à lire en français, ça leur permet de conscientiser l'apprentissage de la lecture dans leur propre langue avant de passer à la langue française, en fait. Parce que les activités qu'ils vont faire en langue maternelle, par exemple découper des syllabes, avec le lexique de leur langue, ils vont retrouver ces mêmes activités en français.
Du coup, est-ce qu'au niveau des programmes, vous allez plus lentement parce qu'il n'y a pas cette maîtrise du français par rapport à une classe de CP francophone ?
Oui, forcément, on est obligé d'aller plus lentement. On essaye de rentrer dans le programme, mais pas au même rythme. On est obligé de suivre le rythme des enfants. C'est comme un adulte qui arrive dans un pays étranger. C'est vraiment étranger. Donc tu ne peux pas demander à cette personne qui arrive, qui ne parle pas du tout la langue, de faire les mêmes choses que quelqu'un qui maîtrise déjà la langue. Parce qu'il faut passer par la compréhension de la langue pour la plupart des activités.
Vous avez un
Dans cet établissement classé en zone d'éducation prioritaire, comme en métropole, les classes de CP sont dédoublées, avec un enseignant pour 12 élèves. Sauf qu'ici, ils sont également accompagnés d'un ILM, enseignant en langue maternelle comme Ricardo. Indispensable pour l'apprentissage, ils sont un véritable lien entre l'enseignant et les enfants venant en grande partie du Suriname, de l'autre côté du fleuve Maroni. Ricardo, pouvez-vous nous dire un peu de quoi parlait votre conte et en quoi c'est important, même si, entre guillemets, on est en Guyane, dans un département français, d'aussi parler le bushinengue en cours ?
La langue bushinengue sert de passerelle, de tremplin, parce que ça permet à l'enfant de voir la comparaison entre sa langue et la langue française, qu'elle ne fonctionne pas pareil, mais que c'est une langue très valorisante.
Culturellement, pédagogiquement, c'est donc très important de jongler comme ça constamment entre le bushinengue et entre le français.
Oui, ça serait très intéressant de raconter l'histoire aussi en langue française. Et nous y travaillons parce que nous sommes dans ce dispositif d'écrire dans la rentrée dans l'écriture et la lecture en lingué. C'est cette année qu'on l'a mis en place, donc on va voir les résultats peut-être à la fin de l'année, parce que ça n'a jamais été expérimenté. Le hic, bon, le souci, c'est que il n'y a pas de locaux pour qu'on soit dans un endroit bien précis pour travailler avec les élèves. On est obligé d'être dans la classe. C'est difficile de travailler avec eux, mais on voit que les résultats sont là parce qu'ils arrivent à lire des mots, des petites phrases tout simples en langue maternelle. Puis ils savent différencier les, par exemple, le « ou » en français se crie « ou », alors que le « ou », c'est comme en espagnol, c'est « u ». Donc ils savent déjà faire la distinction.
Comme vous dites, c'est difficile, ça veut dire que, selon vous, vous êtes trop nombreux pour des élèves non francophones. Il faudrait des groupes plus petits pour travailler avec eux, pour mieux leur apprendre le français.
Groupes plus petits, pas forcément, mais d'avoir deux classes, parce que c'est une classe, un CP dédoublé. Donc si chacune avait sa classe, comme ça nous aurait permis de scinder la classe en deux. Donc on aurait eu des groupes plus petits, comme vous le dites, et ça aurait permis de mieux travailler avec eux. Mais c'est un manque de place, hein, parce qu'on le fait, mais des fois on est obligé de rester dans la classe, des fois on va à l'extérieur, où on a des tableaux, mais on fait avec les moyens.
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles ?
Stéphane.
Et qu'est-ce qui te plaît ici à l'école, Stéphane ?
Pour travailler.
Au début, c'est pas facile, quand on parle que le Bushinengue, d'apprendre le français, c'est facile ou pas ?
Non.
Et à la maison, tu parles un peu français ou tu parles que Bushinengue ?
Bushinengue.
Il y a Imani qui est juste à côté.
Bonjour Imani.
Bonjour.
Est-ce que c'est dur d'apprendre le français ou pas ?
Non.
Comment tu fais pour apprendre le français ?
Ben, nous, on l'aide à faire un stand.
Je regarde la télé.
Télé ?
En regardant la télé, les dessins animés, ça l'aide beaucoup pour le vocabulaire et puis autre. Ça, vous singez, il faut... Ben, là, ici. Miteke wan kalufu mi, mbaye wan kakafo, miteke wan kakafo, mbaye wan dede piki, miteke na dede piki, mbaye wan sipi fumi.
Francesca, on vous retrouve toujours dans cette classe de CP, ici à Saint-Laurent. Là, vous avez mis un rideau pour diviser la classe en deux parties, pour quelle raison ?
Parce que à ce moment-là, on va travailler en binôme enseignant ILM. Donc, de l'autre côté du rideau, il y a une enseignante et un ILM, et de mon côté, une enseignante et un ILM. Donc là, on va travailler sur le lexique, acquisition du lexique en français et en langue maternelle.
Et en quoi c'est important de mettre en place ce dispositif avec le rideau, avec l'ILM ?
Donc, en fait, il faut que les enfants comprennent qu'à ce moment-là, ils vont travailler avec les enseignants qui sont de l'autre côté du rideau. Mais en fait, ça n'empêche pas le bruit et tout ça. Mais en fait, ils voient que à ce moment-là, il ne travaille qu'avec cet enseignant-là. Il faut qu'il se focalise que sur cet enseignant. Parce que à certains moments, les enseignants ILM interviennent parfois sur toute la classe. Mais là, il faut que les enfants sachent que s'ils sont avec tel enseignant, il faut qu'ils restent concentrés sur cet enseignant. Donc c'est pour ça qu'on matérialise.
Ce travail en petit groupe, il est très important pour comprendre et apprendre le français.
Oui, parce que c'est des enfants qui ont des difficultés de concentration, d'écoute. Donc plus le groupe est restreint, mieux on peut rentrer dans les apprentissages.
Ça forcément, ça prend plus de temps à la fin de l'année, vous le voyez, on n'arrive pas toujours forcément à finir le programme classique.
Non, on n'arrive pas à finir le programme classique, mais il faut passer par là, parce que les enfants ont aussi besoin de connaître des choses de chez eux. Et souvent, en début de l'année, on donne la priorité aux éléments culturels de la Guyane, aux choses qui sont proches d'eux. Et par la suite, petit à petit, on intègre d'autres choses.
Nous quittons Saint-Laurent-du-Maroni, direction Cayenne, à 3 heures de route, pour rejoindre le collège Lysophion. Situé dans le quartier sensible de Balata, ce collège de 721 élèves est en zone d'éducation prioritaire.
Alors, Madame Merci, principale du collège Lysophion, situé à Balata, dans la commune de Matoury. Donc, le collège Lysophion, c'est un collège situé en zone très sensible, qui fait souvent l'objet de faits dans les médias, hein, une zone où il y a souvent du trafic illicite, etc. Donc on reçoit un public très difficile, des élèves qui arrivent avec leurs propres problèmes, hein, que nous devons gérer dans l'établissement. Mais tout est mis en place, je vous rassure, dans l'établissement pour que les élèves puissent réussir.
Alors ici, la particularité, c'est que les élèves portent des uniformes. Vous pouvez un peu nous décrire ?
Voilà. Donc sur les quatre niveaux, quatre couleurs différentes. Le bas, bleu, le haut bleu pour les élèves de 6e, le haut jaune pour les élèves de 5e, le haut vert pour les élèves de 4e et un haut blanc pour les élèves de 3e. Donc on identifie tout de suite les élèves par cette couleur de t-shirt. Donc là nous allons dans une classe avec un professeur d'espagnol, Madame Di, qui reçoit une classe de 3e.
Et bien on vous suit, on va partir en cours d'espagnol, voir un petit peu comment se passe la pédagogie.
Qui est-ce? Je l'aime. Niño, si, pero no es el primer personaje. André.
Es la gitana.
Es la gitana.
Donc on va commencer par Abiyana.
Alors je suis Dileïla et je suis professeure d'espagnol au collège Lisofion.
Vous concrètement, comment vous travaillez d'un point de vue pédagogique pour pouvoir rendre les cours attractifs et surtout éviter qu'ils décrochent, d'autant qu'on sait que c'est à partir du collège qu'il y a le plus de décrocheurs?
On va essayer de varier les supports surtout. Et les travaux de groupe fonctionnent bien, de manière à ce qu'on puisse effectivement faire que certains élèves puissent en aider d'autres. Et on va essayer de travailler en fonction des compétences que chaque élève peut développer. C'est-à-dire que pour certains, l'oral sera beaucoup plus simple à utiliser, d'autres vont préférer l'écrit. Et à ce moment-là, si on peut les mettre en groupe pour présenter quelque chose à l'écrit puis à l'oral, chacun pourra essayer de mettre en place ses compétences et enfin pouvoir se sentir valorisé. Il y a certains élèves donc, qui sont décrocheurs, pour qui le simple fait de s'installer à une table, rentrer dans la salle de classe, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ils ont tellement décroché, pour eux ça peut déjà être une petite victoire de venir, rentrer en classe et s'installer.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile au début, quand vous êtes arrivé ici au collège Lisofion?
Ce que j'ai trouvé le plus difficile au départ, c'est la très grande hétérogénéité. C'est-à-dire qu'on va avoir des élèves qui sont très 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 faibles, et d'autres qui vont assimiler les informations très rapidement, et qui vont du coup avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que d'autres. Et là, il faut savoir jongler, effectivement, encore une fois, pour ne laisser personne sur le côté. C'est-à-dire ne pas laisser non plus ceux qui sont très vifs sur le côté, qui ne fassent pas tout le travail en 15 minutes, et les laisser après s'ennuyer pendant le reste de l'heure.
Ça veut dire que ça vous demande aussi un gros travail de préparation en amont, chez vous?
Ah, bien sûr. Ça, c'est le... Tout est là, en réalité. C'est-à-dire que tout se fait surtout en amont. L'heure en elle-même peut être épuisante, attention, mais tout se fait en amont et tout se fait énormément sur notre temps hors collège, quand on n'est pas face élève, justement. Ce qui est le plus important se fait effectivement chez moi, sur mon temps personnel.
Si les deux tiers des collégiens sont d'origine étrangère et ne parlent pas toujours le français en première langue à la maison, ce qui explique en partie leurs difficultés scolaires, certains d'entre eux ont également des conditions économiques et des situations familiales pas forcément évidentes à gérer, comme le fait d'être mère dès l'adolescence. En Guyane, les grossesses précoces sont loin d'être rares.
Je m'appelle Daniela, j'ai 15 ans, j'habite au Lavo.
Alors, est-ce que ça se passe bien pour toi, les cours?
Oui, ça passe bien, mais parfois j'ai des difficultés. Comme j'ai un enfant, à chaque fois, je suis obligée de rester chez moi, pour rester avec elle, quand j'ai personne pour rester avec elle pour moi. À chaque fois, je rate les cours, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de points. Oui, je fatigue souvent, surtout à chaque fois, elle se lève tôt, vers 4h du matin, comme ça, pour qu'elle puisse boire le biberon, comme ça. Et moi, quand je suis arrivée à l'école, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Et j'arrive pas à dormir comme il faut que je travaille. Bon, ça, c'est pas tellement facile pour s'occuper de l'école avec un enfant. Pas tellement facile pour moi.
Pour toi, c'est important de garder cet enfant?
Oui, c'est important. J'aime trop les enfants. Comme tu vois, c'est arrivé. Je suis obligée de garder, mais il y a les gens qui ne gardent pas. Mais j'aime trop les enfants en plus. Je suis très fière d'être maman.
Aujourd'hui, est-ce que tu as des aides hors de ta famille pour justement t'aider à suivre ta scolarité le mieux possible, malgré tout le travail que tu as à côté avec l'enfant à gérer?
Non, pour ça, je n'ai pas des aides. C'est moi qui me débrouille tout seul. J'ai demandé à l'école pour qu'ils puissent m'aider.
Ils t'ont aidé un petit peu?
Non, mais je voulais pour qu'ils m'aident avec l'enfant. Et à chaque fois aussi, j'ai des problèmes avec mes parents. À chaque fois aussi, ils veulent que je sorte de la maison. Ils veulent me mettre dehors à chaque fois. Je voulais pour que le collège m'aide pour ça.
Aujourd'hui, tu as d'autres amis comme toi qui ont 15 ans et qui ont des enfants?
Oui, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont des enfants comme moi, qui ont à mon âge aussi. Il y a ceux qui sont un peu petits que moi aussi. Pour moi, c'est très important d'aller à l'école pour travailler, apprendre et aussi pour avoir ton bac.
Pour aider au mieux ces élèves en grande difficulté scolaire, qui sont plus nombreux qu'en métropole à ne pas maîtriser les fondamentaux, l'établissement les évalue dès la sixième et leur propose des heures supplémentaires de soutien dans toutes les matières. Un dispositif indispensable pour Juliana William, professeure de français au collège Lisofion.
Alors, la première difficulté, c'est la lecture. On a beaucoup d'élèves qui nous arrivent des écoles, du quartier, ne sachant pas lire. Alors, nous avons certains qui sont des petits déchiffreurs, c'est-à-dire qu'ils commencent tout juste à apprendre à lire. Et puis, on a certains qui nous arrivent qui sont des non-lecteurs. Et pour ces non-lecteurs, nous avons mis en place dans le collège des aides à la lecture, c'est-à-dire des créneaux où on prend 5 à 8 élèves et on apprend à ces élèves à lire. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont eu des parcours chaotiques, qui sont arrivés très tardivement en Guyane, allophones parfois, ou certains qui sont nés en Guyane mais qui n'ont pas été scolarisés, il y en a. Donc pour ces élèves, nous faisons l'aide à la lecture par des professeurs du collège. Donc ces élèves sont pris en charge 4 à 5 heures par semaine.
Alors qu'est-ce qui fait que beaucoup d'élèves ont encore des difficultés en arrivant en 6e, le fameux savoir lire, écrire et compter, si cher à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation? Qu'est-ce qui fait qu'ici, on est au-delà des 20% d'élèves qui ont du mal à en arriver en 6e par rapport à la métropole?
Déjà par leur parcours, parce que ce sont des élèves qui sont inscrits, qui ont parfois fait que le CM2 et qui, dans leur pays d'origine, n'ont pas appris à lire et n'ont pas été scolarisés. Donc, on a ce cas de figure où ces élèves nous arrivent en 6e et il faut faire avec. Donc, au collège, la politique est que, en sortant du collège, tous nos élèves doivent apprendre au moins à lire.
Comment faites-vous pour concilier à la fois le fait de devoir leur faire rattraper leur retard et en même temps suivre le programme scolaire de 6e en ayant le même nombre d'heures?
Alors, ce sont des heures qui seront payées en HSE, c'est-à-dire en heures supplémentaires. Ce ne sont pas des heures devant la classe. Ce sont des petits groupes de 6 élèves. On se fait 4 heures, aller voir 5 heures avec ces élèves.
Donc c'est vraiment un travail de longue haleine jusqu'au bout du collège?
Jusqu'au bout du collège, parce qu'on a encore des élèves de 3e ne sachant pas lire.
Alors, la 3e correspond à une classe d'examen, le brevet des collèges. C'est plus compliqué pour ces élèves d'obtenir ce fameux brevet des collèges?
Alors, ici, on a le CFG, Certificat de Formation Générale, c'est-à-dire un sous-diplôme du brevet de collège, où ça permet à certains qui n'ont pas eu toutes les acquisitions de compétences de passer ce certificat d'études pour pouvoir prétendre à un CAP. Ils auront plus de chances d'avoir le CAP qu'une seconde dite générale.
Ou professionnelle.
Ou professionnelle, voilà.
Aujourd'hui, en Guyane, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à arriver au lycée. En général, c'est à peu près la moitié d'une classe d'âge qui arrive au niveau baccalauréat. C'est moins qu'en métropole. Comment vous l'expliquez, le fait qu'on décroche vraiment beaucoup à partir du collège en Guyane?
Alors, comment je l'explique? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parcours difficiles. Certains, c'est que bon, ils ont un dégoût aussi du système scolaire. Ils ne veulent pas. Il y a l'argent facile, parfois, dans certains quartiers difficiles, où être une mule rapporte beaucoup plus qu'aller à l'école. Donc, lorsqu'on est dans des quartiers dits difficiles de Matoury, le gain de l'argent facile permet à certains de nos élèves de décrocher facilement aussi. Le collège Balata, c'est la cité Balata. Pour la mairie de Matoury, c'est là où il y a les meurtres, le trafic de drogue. Et aux portes du collège, on peut avoir des personnes qui leur demandent déjà de faire ce petit trafic. Donc même dans les rues, c'est quelque chose de liaison. Ils sont là.
Hey Damien, so long passé.
Mais les heures de soutien ne suffisent pas toujours, car certains de ces élèves décrocheurs ont aussi des problèmes de comportement. Dans ces cas extrêmes, les élèves les plus difficiles sont envoyés en atelier relais pendant 2 mois. Dans ces classes à petits effectifs, où l'accompagnement est personnalisé, pas plus de 10 élèves par classe, l'objectif est de leur apprendre la discipline, mais aussi de les réconcilier avec le monde de l'école. Un travail de longue haleine qui demande aussi beaucoup de patience, selon Franck Chaperon, le responsable de l'atelier relais.
Souvent, ce sont des élèves qui sont en difficulté scolaire, ce qui conduit soit à de l'absentéisme, soit à un comportement perturbateur. Ça, c'est la grande majorité des élèves, hein. Avec, pour la quasi-majorité des élèves, des situations familiales très problématiques. Ça, c'est un point qu'on retrouve chez tous ces élèves. Et ensuite, parfois, on a des élèves qui n'ont pas de difficultés scolaires, mais qui ont de telles situations sociales, telles situations familiales, qu'ils décrochent.
Alors, le contexte guyanais, est-ce que, entre guillemets, il favorise aussi le décrochage? On sait des situations familiales compliquées, beaucoup d'élèves migrants.
Oui.
Alors, on a un contexte un peu particulier, ici en Guyane avec 40% de décrocheurs. Donc ça aussi, ça joue dans les élèves que vous recevez.
Oui, oui, oui. Alors bon, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques ou des choses comme ça, ou d'origine. Mais on s'aperçoit effectivement que dans les ateliers relais, on a beaucoup de jeunes dont les familles sont issues de l'immigration. Là, pas plus tard que aujourd'hui, je peux vous donner un exemple d'un élève qui était là en dispositif relais jusqu'à maintenant et que je vois plus depuis une semaine parce qu'il était dans il habite dans un squat qui vient d'être détruit. Donc ce jeune, je n'ai plus de nouvelles depuis une semaine. Je ne sais même pas s'il est relogé ou quoi que ce soit. Donc effectivement, ce type de problématique se retrouve et conduisent à un décrochage, souvent.
Du coup, vous, en tant qu'enseignant spécialisé, comment faites-vous pour tenter d'y remédier tant bien que mal lorsqu'ils sont chez vous ?
L'idée de base pour commencer à travailler avec ces élèves-là, c'est d'essayer de créer un climat de confiance dans l'atelier. Un climat de confiance envers les adultes et entre eux. Et ensuite, on essaye de leur donner des outils, entre guillemets, des outils qui vont au-delà du scolaire, qui concernent les compétences psychosociales, les choses comme ça, les émotions, des choses dont ils n'ont pas l'habitude de parler, et d'essayer d'analyser, de les aider à analyser eux-mêmes leur comportement pour remédier à leurs difficultés dans leur collège.
Est-ce que vous travaillez aussi avec leurs enseignants ? Est-ce qu'il y a un lien entre vous et eux ?
C'est la grande difficulté, en fait. On est très en lien avec les CPE des collèges qui nous envoient ces élèves. On a tenté depuis des années d'impliquer les professeurs des collèges dont on reçoit les élèves, mais c'est compliqué, c'est assez difficile. Et souvent, alors je le dis comme je le pense, c'est une réalité, je comprends les collègues qui soient fatigués par le comportement de ces élèves. Quand ils les voient quitter leur classe, ils sont plutôt soulagés. On a aussi ce rôle-là, il ne faut pas s'en cacher, on a le rôle de faire souffler les équipes. Donc dans leur retour, souvent les professeurs sont plutôt déçus de voir revenir l'élève que ils n'ont pas forcément une démarche positive d'accompagnement. Pas tous, mais certains. Et c'est là où ça peut mettre en péril le retour. Mais on y travaille, on essaye d'impliquer les collègues. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous imaginez votre retour dans votre classe et quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour ne pas vous retrouver dans les mêmes situations qui vous ont conduit en atelier relais. Rosmita notamment, j'aimerais bien savoir si
Rosmita est en cinquième, venue à l'atelier relais pour des problèmes de comportement. Elle est sur le point de retrouver son collège d'origine. Des retrouvailles avec ses anciens camarades qu'elle appréhende. Alors pour quelle raison tu es à l'atelier relais en ce moment ?
Parce que j'allais pas trop en cours. Je m'énervais tout le temps en cours, j'assistais tout le monde. Parce que j'ai eu des problèmes familiaux et ça me perturbe un peu.
Est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris des choses à l'atelier relais, dans le comportement, dans ton attitude ? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu arriveras à mieux gérer et que du coup tu vas moins t'énerver ?
Oui, comme mon comportement. En fait, être présent tous les jours, tu vas vivre en communauté.
Et pourquoi tu n'allais plus en cours ?
J'allais plus en cours parce que avec les certaines copines que j'avais, ils me disaient des fois de brûler les cours, de rester avec eux. Du coup, ça fait que j'allais pas en cours.
Elles t'ont influencé dans le mauvais sens.
Oui.
Et aujourd'hui, tu seras prête à résister, à ne plus les écouter ?
Oui.
Ça t'a fait vraiment beaucoup de bien, l'atelier relais ? Ça t'a réparé ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Mais j'avais besoin, par exemple, de parler avec quelqu'un en qui je peux avoir confiance, qui pourrait me donner des conseils. C'est pas que, quand j'en parle avec ma mère, elle me donne des conseils, mais j'avais un peu besoin de parler avec quelqu'un à l'extérieur pour voir ce qu'il en pense et quelqu'un en qui j'ai confiance.
Alors nous sommes désormais à Kourou, à une heure de Cayenne, Kourou qui est connu pour son centre spatial. Et ici nous sommes donc devant le lycée professionnel Élie Castor, dans lequel il y a un internat, car l'une des problématiques de la Guyane, c'est que c'est un département très étendu sur près de 1000 km d'est en ouest, ce qui pose beaucoup de problèmes pour les enfants qui veulent poursuivre leur scolarité, notamment au lycée, notamment pour ceux qui sont en zone reculée, comme nous avons pu le voir par exemple à Saint-Laurent. Ces élèves sont donc obligés de quitter leur famille et de venir dans des internats comme à Kourou, où ici ils sont scolarisés, parfois même ils peuvent rester le week-end pour ceux qui habitent trop loin, et nous allons donc voir comment se passe leur scolarité et comment ils vivent cet isolement loin de leur famille.
Nous sommes en train de les voir là déjà, nous avons 4 bâtisses.
Romualdus de Souza était le CPE, conseiller principal d'éducation, en charge de l'internat du lycée Eli Castor lors de notre venue. Pour lui, l'internat joue un rôle considérable dans la réussite des élèves, qu'ils viennent des zones les plus reculées de Guyane ou des quartiers les plus difficiles de Kourou.
L'internat pouvait être et doit être un lieu de réussite pour les élèves. Mais malheureusement, il n'y a pas une culture de l'internat en Guyane. Les familles n'aiment pas trop mettre leurs enfants à l'internat. Et contrairement aux prémices que vous avez posées, à l'internat, nous avons pratiquement autant de personnes venant de loin que des gens proches. Parce que nous accueillons aussi, toujours dans le souci de la réussite, c'est dans le leitmotiv de notre chef d'établissement, nous devons accompagner tous les élèves à la réussite. Donc nous accueillons des cas sociaux aussi à l'internat. Et ces cas sociaux, ils habitent parfois en face du lycée. D'accord ? Parce que nous savons que l'internat serait pour eux un lieu de réussite.
C'est une manière de les protéger par rapport à l'environnement familial, par rapport aux mauvaises influences qu'ils pourraient avoir dans leur quartier ?
Oui, les deux à la fois, c'est pour les protéger contre eux-mêmes déjà aussi, ou c'est surtout, notre souci principal, c'est leur donner un meilleur moyen de réussite, qu'ils n'ont probablement pas chez eux. Et souvent, c'est des cas qui nous sont adressés par l'assistance sociale. Et donc, sachant que nous avons ici un cadre où il peut se déployer en toute égalité et travailler dans de bonnes conditions et se coucher dans de bonnes conditions, parce que mon problème, c'est que j'aurais bien aimé savoir quand mes élèves me quittent, où ils vont, où ils restent.
Est-ce que l'internat, au-delà des distances, c'est aussi, modestement, l'un des moyens de lutter contre le décrochage scolaire?
Oui, essentiellement. Je vous dis que l'internat, c'est un moyen pour accompagner l'élève vers la réussite. Ça, c'est indéniable. Parce que tout est organisé pour qu'il puisse réussir. Le résultat s'améliore et les réussites aux examens aussi sont au rendez-vous. On a eu 100% de réussite aux différents examens l'année dernière.
Merci, M. de Souza.
Je vous en prie.
Et maintenant, on va aller du côté des filles pour interroger nos lycéennes.
Les lycéennes sont là pour prendre la relève.
Et qui viennent de loin, du Grand Ouest. Hein.
Ouais, ils sont du Grand Ouest, on va les laisser.
Alors les filles, vous pouvez nous décrire votre chambre un petit peu là. Est-ce que c'est bien rangé déjà?
Oui, c'est très bien rangé.
Larissa et Julienne sont en terminale bac pro. Elles viennent respectivement de Saint-Laurent-du-Maroni et d'Apatou. Pour mettre toutes les chances de leur côté, afin de décrocher leur bac, elles ont fait le choix de l'internat. Un choix difficile, mais nécessaire pour Julienne, mère d'un petit garçon, et qui repasse son bac pour la deuxième fois. Alors Julienne, pour quelles raisons as-tu décidé de venir à l'internat à Kourou?
D'abord, parce que où j'habite, il y a une grosse distance. J'habite jusqu'à Apatou. Et le temps que je fasse la route tous les jours, j'aurai déjà des manques de sommeil. J'ai raté plusieurs cours avant d'arriver. Et moi, je trouve qu'en étant ici, ça me permet d'être là, de ne pas manquer d'heures de sommeil, d'avoir tout à disposition. J'ai de quoi manger, je sais du matin au soir que je vais manger, je sais déjà ça.
Mais qu'est-ce qui est mieux alors ici, par rapport à la maison?
Ce qui est mieux, c'est qu'on a des aides. Il y a des gens sur place pour nous aider à faire les devoirs. Il y a des gens qui nous guident, on dirait. On a un exemple de ce qu'on voudrait faire plus tard. Si il y en a certains qui veulent être surveillants plus tard, eh bien, il y en a certains qui voudraient poursuivre les études, il y a les BTS et tout. Et eux, ils nous encouragent à aller de l'avant.
Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'internat, tu penses que ça va te permettre d'avoir de meilleures notes et de ne pas décrocher à l'école?
Moi, aujourd'hui, je pense que si cette année, je rate le bac, ce n'est pas à cause de l'internat, parce qu'ici, on nous aide à nous donner au maximum. On nous aide à tout ce qui concerne les cours qu'on ne comprend pas. On nous aide à refaire les cours, à comprendre tout. Donc, si j'ai raté le bac cette année, ce n'est pas à cause de l'internat. C'est juste que je ne veux pas donner de moi-même.
Du coup, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir de meilleures notes que quand tu étais au lycée à Saint-Laurent?
Oui, je pense que j'ai eu de très bonnes notes au comparé à quand j'étais au lycée.
Ou ni lock sous pavant, ou ni pas ou pavant, ou ni
tatouages piercing à son papa les fort. Si moi t'es ni on se crève S ou t'es que j'y j'ai même moyen ou cas j'y j'ai moyen à présent gaz à moi lieu ou ni lock sous papa ou ni pas ou papa ou ni tatouages piercing à son papa les fort. Si moi t'es ni on se crève S ou t'es que j'y j'ai même moyen ou cas j'y j'ai moyen à présent.
Et du rap guyanais pour conclure ce reportage, l'école de la confiance, un défi pour la Guyane, un reportage signé Hakim Kasmi avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et ancien recteur de l'Académie de Guyane. Justement, Jean-Michel Blanquer, quand vous avez décidé d'abaisser l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, est-ce que vous pensiez à la Guyane ?
Oui, bien sûr. Je pensais beaucoup à la Guyane. Je pensais aussi à Mayotte, qui sont les deux territoires qui vont beaucoup bénéficier de cette mesure. Et je sais bien que c'est l'effet concret pour beaucoup d'enfants de l'instruction obligatoire à 3 ans va être très important parce que l'ensemble des problèmes que l'on a vus ont souvent pour racine ce qui s'est passé pendant les premières années de la vie, notamment en matière de maîtrise de la langue. Tout à l'heure, on entendait des élèves de CP qui n'avaient pas le français comme langue maternelle. Il est évident que s'ils n'ont pas été à l'école maternelle, leur entrée en CP en est rendue plus difficile, alors qu'on peut très bien, en 3 ans d'école maternelle, avoir acquis une fluidité du langage qui permet de bien commencer son CP. Donc pour plusieurs milliers d'enfants en Guyane, cette mesure va avoir de l'importance, comme à Mayotte, ou comme d'ailleurs dans le reste d'outre-mer, mais notamment dans ces deux territoires.
Pour ces enfants qui ne parlent pas le français, est-ce que ce serait pas même intéressant d'être scolarisé dès l'âge de 2 ans ?
Quand c'est possible, oui. Il faut surtout avoir une réflexion sur ce qui se passe entre 0 et 3 ans, en termes d'aide aux familles, d'accompagnement. On l'a vu d'ailleurs indirectement au travers du sujet des grossesses précoces dans l'un des reportages, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des enfants qui ont... parce que là, on a vu le cas de la mère qui avait 15 ans, et effectivement, c'est tout un sujet, mais pensons aussi à l'enfant qu'elle a, et au futur élève qu'il va être, et donc il est évident que là, on a du soutien aux familles à concevoir, de façon à... Et puis aussi, autant que possible, une maîtrise de la démographie, puisque on a des enjeux qualitatifs, mais on a aussi des enjeux quantitatifs, puisque avec une des croissances démographiques les plus fortes au monde, avec des croissances de l'ordre de 4 à 5 % par an, ça rend les choses difficiles pour l'éducation nationale et pour les collectivités locales de maintenir un rythme qui mêle et le quantitatif et le qualitatif.
Hakim Kasmi.
Alors justement, vous le disiez, une hausse démographique très importante, ça pose la question des moyens. On l'entendait tout à l'heure à Saint-Laurent-du-Maroni, c'était une classe dédoublée, sauf que contrairement à ce qui devrait se faire et ce qui est préconisé par vous notamment, d'avoir une classe pour 12 élèves, là, faute de moyens, on a une classe avec 25 élèves et on les sépare juste avec un rideau. Ça pose aussi la question des moyens, d'autant qu'aujourd'hui, les collectivités, à qui on a retiré beaucoup d'argent ces dernières années, ont de plus en plus de mal, soit à construire des écoles, voire même à construire des classes en plus.
Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a été trop économe, parce qu'en l'occurrence, là aussi, ce sont des territoires qui ont bénéficié plus que tout autre de la mesure de dédoublement, et c'est une mesure très positive pour un territoire comme la Guyane qui a bénéficié de beaucoup de dédoublement de CP et de CE1 depuis 2 ans.
Mais c'est
et
vrai d'ailleurs, que quand on entend
dans l'infrastructure.
Alors sur la question des infrastructures, alors mais quand même, d'abord premièrement en termes de moyens humains, si vous me permettez l'expression, on a mis le paquet. Ensuite en termes de moyens physiques, c'est des sujets qui réclament souvent du temps. Alors d'abord, qui est le fait de mettre un rideau, faut pas caricaturer ce que ça peut signifier. En pratique, ça conduit parfois à des situations tout à fait bien gérées. J'ai des cas à l'esprit où on arrive à faire des choses très bien avec 2 intervenants. Parfois la classe est à 24, parfois elle est à 2 fois 12. Ce n'est pas forcément catastrophique que ce soit un système de séparation par les rideaux. Mais par ailleurs, nous avons un plan d'appui aux collectivités locales pour les investissements, au travers de ce qu'on appelle le plan Guyane, qui permet actuellement, en ce moment même, la construction d'écoles primaires, de collèges, de lycées, et qui donc va faire qu'on puisse avoir des classes à 12 au cours des années actuelles et des années prochaines. Et donc progressivement, on va avoir une sorte de stabilisation de ce sujet.
Alors concrètement,
vous
avez des chiffres à nous donner ce soir.
Puis en plus, il se trouve que dans la loi pour l'école de la confiance, nous avons introduit, d'ailleurs à l'instigation du sénateur de Guyane Antoine Caram, une disposition pour simplifier les appels d'offres de façon à ce qu'il y ait des constructions plus adaptées et plus rapides d'écoles primaires en Guyane et à Mayotte.
Alors concrètement, vous avez des chiffres à nous donner ce soir sur le nombre d'écoles qui pourraient être construites dans les prochaines années. On se souvient que c'était une revendication très forte pour
le débat de 2017. Oui, je préfère. Après, c'est aussi une liberté des collectivités locales de faire avec un certain montant un tel nombre d'écoles, etc. Mais on est déjà sur la construction de 4 lycées pour les années prochaines. Je n'ai plus en tête le nombre d'écoles, mais c'est évidemment plusieurs dizaines d'écoles qui vont voir le jour.
Ce qui est sûr, c'est qu'on part de loin, puisqu'on voit des établissements qui sont dans un état de grand délabrement. Il y a vraiment beaucoup à faire.
Oui, encore une fois aussi, on doit avoir une vision d'une plus grande simplicité dans la manière de concevoir cela, parce que par exemple, j'ai souvenir lorsque j'étais recteur de Guyane de difficultés technocratiques, bureaucratiques pour respecter par exemple des normes de construction de nature européenne, alors même qu'on voyait le Suriname voisin réussir à faire des écoles beaucoup moins chères et à la limite plus efficaces en moins de temps, moins en argent. Donc un certain pragmatisme doit nous permettre aussi de développer les écoles à un rythme assez soutenu et avec des moyens supplémentaires que nous avons mis. Mais d'une façon qui permette d'être efficace.
Alors plus globalement, au-delà de l'école, comment peut-on réconcilier cette jeunesse, une jeunesse qui doute beaucoup, une jeunesse qui très souvent arrive de l'étranger, du Brésil, du Suriname, avec de grosses difficultés, et qui ne croit pas toujours en l'école, et qui du coup est prête, par exemple, à venir en métropole comme mule pour avoir plus d'argent. Comment peut-on les réconcilier et leur faire comprendre que l'école est importante pour leur réussite ?
Bon, je pense qu'il y a évidemment plusieurs éléments de réponse. Comme d'habitude, des éléments immatériels et des éléments matériels. Et l'immatériel est toujours ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, en Guyane, il est quand même à l'optimisme. On entend une joie de vivre chez les enfants et les adolescents ou les adultes aussi, d'ailleurs, que vous avez interrogés. J'ai retrouvé cette Guyane passionnante que l'on aime dès qu'on la connaît et qui est que, en réalité, bien sûr qu'il y a de la vitalité, bien sûr qu'il y a de l'optimisme, que traduit d'ailleurs cette démographie. Donc déjà, un état d'esprit, c'est-à-dire un état d'esprit qui ne consiste pas à cultiver l'idée de fatalité. Je pense que c'est très important, ça vaut aussi pour l'ensemble de notre pays d'ailleurs, mais c'est particulièrement vrai pour la Guyane. De ce point de vue-là,
moi qui ai maintenant presque... Il y a malheureusement aussi des suicides
d'adolescents. Bien sûr, je vais y venir, mais c'est surtout du suicide amérindien d'ailleurs, sur lequel on pourra revenir et qui est très important. Et là, pour le coup, on est dans de la désespérance profonde, en effet. Mais avec les plus de 15 ans de recul que j'ai sur le sujet, je vois bien qu'il y a des choses qui ont beaucoup progressé et qui doivent aussi être explicités pour montrer la voie. Rien qu'en une année, entre l'année dernière et cette année, on a baissé, c'est un record, hein, de 5 points le taux de décrochage scolaire en Guyane. Précisément parce qu'on a eu il y a un plan spécifique de lutte contre le décrochage en Guyane. Il y a aussi, je tiens à y insister, tous les cas de très grande réussite de certains jeunes qui peuvent servir un peu de locomotive et de modèle pour d'autres. J'entendais parler encore hier d'une jeune interne en médecine ici à Paris, qui est de Marie Passoula. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Marie Passoula, c'est d'ailleurs entre parenthèses la plus grande commune d'Europe par sa superficie, mais c'est au bout du fleuve Maroni, un endroit très isolé où il n'y a jamais eu, jusqu'à présent, d'enfants de Marie Passoula réussissant à devenir médecin. Et donc ça, mais je pourrais donner l'exemple de jeune député de Guyane que j'ai connu élève. À Saint-Laurent-du-Maroni, il était élève quand j'étais recteur. On a fait la convention ZEB Sciences Po avec son lycée de Saint-Laurent, qui est l'un des lycées, je crois, où vous êtes allé. Ce jeune, il a fait ensuite Sciences Po, justement. Et aujourd'hui, il est député de France. Et c'est évidemment très significatif de ces progrès qui existent. Donc alors, on a des éléments pour tirer vers le haut, puis on a des éléments pour pousser la masse générale. Par exemple, le CPA12 et le CE1-12, ça en fait évidemment partie. Mais il faut effectivement pointer chacun des facteurs que votre reportage montre très bien, c'est-à-dire à la fois les enjeux d'appui social, bien sûr, d'aide sociale aux élèves, les enjeux de maîtrise du français, que vous avez évidemment très bien montré, et puis les enjeux de distance, et c'est très important qu'on parle des internats, puisque c'est effectivement un des points très importants.
Alors juste du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'expliquer que même si la Guyane est un département français, le contexte n'est pas du tout le même. Alors finalement, est-ce que le modèle de métropole est-il transposable véritablement à 100% en Guyane ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là aussi ?
Non, pas à 100%, justement. En partie oui et en partie non. Donc il faut tenir compte des bienfaits de transposition telle qu'elle et puis des bienfaits d'une adaptation locale. Donc sur ce qui concerne la transposition telle qu'elle, encore une fois, un exemple typique, c'est le dédoublement. C'est extrêmement positif pour la Guyane. L'instruction obligatoire à 3 ans, c'est extrêmement positif pour la Guyane et elle est bénéficiaire de cette transposition telle qu'elle. Ensuite, il y a les sujets évidemment d'adaptation pédagogique. Et vous avez parlé dans votre reportage de ce qu'on appelle les ILM, c'est-à-dire de ces assistants spécialisés qui permettent d'être un petit peu des passeurs de langue entre les langues originelles qui sont nombreuses et qui sont d'ailleurs une grande richesse, aussi bien amérindienne que des noirs marrons.
Alors, des ILM, si je peux me permettre, qui demandent aussi un peu plus un meilleur statut, parce que pour l'instant, ils sont en général précaires et CDD.
Oui, c'est un sujet qui a quand même progressé aussi bien par le nombre d'ILM que par la moins grande précarité du statut, mais c'est aussi un sujet sur lequel on progresse. Sauf erreur de ma part, la plupart des ILM ont un statut d'assistant d'éducation aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que on accentue la pérennité de ce dispositif avec plus d'ILM, mieux formés. Et un des points sur lesquels il faut beaucoup insister, c'est le progrès de la formation des professeurs en Guyane. On est en train de faire une modernisation du futur INSPE de Guyane, qui est lui-même dans la nouvelle université de Guyane. Là aussi, un point de progrès. Quand j'y étais en 2004, les départements universitaires étaient mêlés avec le département de gériatrie de l'hôpital. Je me souviens d'images, de réalités redoutables que j'ai vécues. À cette époque, a été planifiée la nouvelle université, qui existe maintenant depuis environ 3 ou 4 ans. C'est un magnifique campus à Cayenne. Dans ce campus, vous avez l'école de formation des professeurs.
D'aller voir France Culture il y a quelques années, car il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'élèves, très souvent, ils devaient quitter la Guyane et venir jusqu'en métropole pour venir étudier. Alors,
exactement. Ça rétroagit ensuite sur la formation des professeurs et par exemple sur la formation des ILM. Donc je mentionne ça parce que c'est un point majeur et parce que c'est significatif aussi de ces éléments de progrès.
Alors sur la formation, justement, il y a aussi beaucoup d'enseignants de métropole. Il y a un très fort turnover, car les enseignants ne sont pas toujours à Cayenne ou à Kourou en pleine ville. Ils sont beaucoup aussi en zone très reculée, ce qui pose des gros problèmes d'adaptation et de logement. Que leur répondez-vous à ces enseignants qui sont actuellement en Guyane et qui sont inquiets et qui menacent de rentrer faute de moyens?
Alors ça, c'était un de mes principaux sujets aussi lorsque j'étais recteur. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'un pourcentage important des postes sont sur les deux fleuves, le Maroni et l'Oyapock. Et c'est souvent d'ailleurs des jeunes venus de métropole qui prennent ces postes. Pas toujours, mais souvent. C'est d'ailleurs des fonctions magnifiques, j'en profite pour le dire. Il y a certainement des gens qui nous écoutent qui ont envie de faire cela. Parce que
mais les conditions sont quand même rudes, jeune, en majorité, c'est pas évident.
Après, il faut aimer ce type de vie, mais c'est absolument magnifique de se retrouver. Honnêtement, c'est typiquement le genre de choses que j'aurais fait à 25 ans. C'est vraiment magnifique. Après, il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'eau, il y a un problème de télécommunication. C'est des sujets qui se sont améliorés au fil du temps, mais qui ne sont pas encore parfaits, y compris sur le plan du logement. Et le rectorat travaille avec les collectivités locales pour améliorer ça, bien sûr.
Mais alors, j'ai fait un reportage, moi, sur les écoles de proximité, ce qui a l'air très bien. C'est-à-dire que les communes isolées construisent des écoles. Elles peuvent être aidées pour ça, d'ailleurs, par l'État. Mais des enseignants qui parlent la langue locale, installés sur place, il y en a, on en trouve, suffisamment
oui.
Bien formés.
C'est évidemment là aussi un des principaux enjeux, et c'était très bien dans le reportage de voir qu'il y avait cette jeune enseignante à Saint-Laurent qui connaissait les langues locales. C'est évidemment le cas le meilleur, c'est encore mieux que d'avoir un assistant de langue, puisque elle peut à elle toute seule faire le passeur entre plusieurs langues. Donc c'est évidemment une très bonne chose, et ça nous renvoie à la nécessité de faire qu'il y ait beaucoup de jeunes Guyanais qui deviennent eux-mêmes professeurs en Guyane. Et c'est ce qui a aussi progressé depuis quelques années. On a beaucoup poussé cela, et ce que je disais tout à l'heure sur l'école de formation des professeurs de Guyane va évidemment dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va avoir avec le temps de plus en plus de professeurs eux-mêmes guyanais, donc plus à l'aise pour rester longtemps et plus à l'aise aussi pour parfois faire le passeur entre différentes langues. Donc c'est évidemment quelque chose de très important.
Alors,
on a dépassé aujourd'hui, je pense que c'est entre un tiers et la moitié des professeurs qui sont d'origine guyanaise.
Plus de professeurs, oui, mais l'année prochaine, vous allez supprimer 2600 postes dans le secondaire, au collège et au lycée. Alors, je sais, vous allez me dire que c'est à cause de la baisse démographique, il y aurait moins de monde au collège et au lycée. Mais est-ce que, quand on voit que justement, il y a beaucoup de décrochages au collège en Guyane, est-ce que ces postes vont aussi concerner les collèges et les lycées guyanais, ces suppressions de postes?
Non, les chiffres que vous donnez sont des chiffres nationaux, ça dépend à chaque fois de la démographie. Donc en Guyane, nous continuons à créer des postes année après année parce que la démographie est forte. Et donc c'est encore le cas. Alors on dira toujours que ça n'est pas suffisant, mais néanmoins on est en situation de création de postes. Oui.
Alors on voit que les problématiques auxquelles la Guyane est confrontée dépassent très largement l'école. Est-ce que vous travaillez avec les autres ministres? Est-ce que l'État a vraiment une vision, une ligne directrice pour cette région? Puisque l'école toute seule ne peut pas répondre à toutes les problématiques.
Bien sûr, la dimension interministérielle et de coopération entre les administrations sur le terrain et avec les collectivités locales est absolument essentielle. J'étais il y a à peu près un an en Guyane avec le président de la République et d'autres ministres, et évidemment la ministre de l'Outre-mer qui fait cette coordination. Et il y a notamment une très grande complémentarité entre les administrations sociales et l'éducation nationale. Je vous ai parlé tout à l'heure du plan de lutte contre le décrochage, qui a fait que aujourd'hui vous avez un taux de décrochage en Guyane qui est de 14,8%. C'est un taux de décrochage qui était le taux de décrochage national français dans les années 2000. Donc vous voyez, ça donne quand même un petit élément d'espoir. Ce chiffre, je le rappelle, je le redis, il était de 5 points de plus l'année dernière. On est passé de 19 à 15, disons, à 14,8 en une année, par volontarisme et notamment par coopération entre les administrations sociales et l'éducation nationale pour agir sur différents facteurs et notamment les aides sociales qu'on peut donner aux élèves ou à leurs familles dans des situations particulières.
Alors ça me fait penser à l'examen de votre projet de loi au Sénat, puisqu'il y avait cette proposition des sénateurs de suspendre les allocations pour les parents d'élèves absentéistes. Ça vous paraît avoir du sens ?
Ah, c'est un très vaste sujet. En l'occurrence, c'est une disposition que nous enlèverons au moment du passage en commission mixte paritaire. Mais c'est intéressant d'avoir une réflexion sur à quoi servent les aides sociales et dans quelle mesure elles sont pour les enfants. Vous savez, dans le Brésil voisin, une des dispositions les plus saluées du gouvernement de Lula, ça a été le fameux Bolsa Familia, où on donnait de l'argent aux mères de famille dans la mesure où il y avait une assiduité des enfants à l'école. Tout le monde a salué ça comme étant des choses les plus progressistes qui soient. Dès qu'il y a des raisonnements de ce genre en France, ça semble réactionnaire. C'est bizarre. Et surtout que là, en l'occurrence, on est dans le pays voisin. Donc il faut évidemment ne jamais prendre des mesures qui aggravent des situations familiales difficiles. Ça, on ne peut être que d'accord avec ça. Il faut évidemment avoir des mesures qui soient les plus personnalisées possibles pour tenir compte de la situation de chacun. Il faut aussi avoir des mesures qui ne soient pas contre-productives, ou lorsque vous aidez des familles, c'est pour acheter un écran plat sur la rive d'en face ou des choses comme ça. Et ça, les réalités, elles existent. On fait semblant de ne pas les voir et on se paye de mots facilement. Soit on regarde les choses pour de vrai. Et dans ces cas-là, on fait en sorte que nos politiques sociales soient au service de l'intérêt réel des enfants. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas la suppression aveugle des allocations familiales qui est la solution, mais c'est normal de réfléchir sur comment nos politiques sociales sont au service du véritable intérêt des enfants.
Aujourd'hui, on le voit, une véritable défiance d'une partie de la population, on l'a vu avec les gilets jaunes, mais très souvent aussi, quand on va voir les ultramarins, ils ont ce sentiment de dire oui, officiellement, on fait partie de la France, on est français, mais on se sent aujourd'hui plus isolé que les autres. Comment réconcilier le peuple avec aujourd'hui des restrictions budgétaires et le fameux « en même temps » si cher Emmanuel Macron, où d'un côté, on va retirer des subventions, comme dans les mairies, et d'un côté, on va demander aux Français de faire des efforts.
Non, je pense qu'il est excessif de parler de restrictions budgétaires. Si vous entendez tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, vous avez des investissements supplémentaires dans les constructions scolaires, vous avez des créations de postes supplémentaires, notamment à l'école primaire, vous avez les dédoublements des classes, vous avez du travail social, vous avez le développement des internats.
Mais je pense aux associations, parce que notamment quand on les a rencontrées, beaucoup d'entre elles nous ont dit qu'elles sont très inquiètes car elles ne sont pas sûres d'avoir leurs fonds, les prochaines, leurs aides pour aider notamment les jeunes des quartiers.
C'est des sujets où il y a toujours de l'insatisfaction parce qu'il y a tant à faire qu'on voudrait faire plus, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de restrictions budgétaires en la matière. Il y a peut-être insuffisance budgétaire.
Bah, quand on baisse depuis plus de 15 milliards la baisse des dotations des collectivités locales, alors ça a commencé avant l'arrivée de M. Macron au pouvoir. C'est une réalité.
Le débat dévie vers quelque chose de beaucoup plus général, mais je veux bien l'aborder. Puisque vous êtes là-dessus, les dotations globales aux collectivités locales, on a stabilisé cette dotation depuis qu'est arrivé ce gouvernement. Et les baisses dont vous parlez sont des baisses qui sont antérieures à ce gouvernement. Donc ce gouvernement a le dos large par rapport à plein de reproches qu'on lui fait sur des problèmes qui souvent ont plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Mais il ne faut pas exagérer sur ces points. Il y a au contraire du volontarisme. Et l'un exemple typique, c'est le plan Guyane qui correspond à une crise qui a eu lieu sous le gouvernement précédent. Il est en train d'être assumé par le gouvernement actuel et il signifie plus d'argent pour la Guyane. Donc non, je crois qu'il y a un réel effort qui est fait. On pourrait considérer qu'il n'est pas suffisant, qu'il peut être mieux fait. Ça, je veux bien entendre ça. Mais il y a une réelle attention. Moi-même, je suis très attentif, évidemment, vous l'entendez, aux réalités guyanaises et plus généralement aux réalités ultramarines. Il y a la possibilité d'un optimisme guyanais, je le disais tout à l'heure, et il faut évidemment accompagner la Guyane dans ces développements qui sont extraordinaire. C'est un territoire très grand, magnifique, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, qui a aussi la fusée Ariane, qui a donc des atouts considérables.
Alors une fusée, mais Internet ne marche pas forcément partout, ce qui est un paradoxe.
Mais Internet marche beaucoup mieux qu'il y a encore quelques années. Encore une fois, on peut voir non seulement le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, mais voir aussi s'il se remplit ou s'il se vide. Et à mes yeux, il se remplit. Alors, mais... il se remplit insuffisamment. Pas... Mais la meilleure façon d'aider la Guyane, c'est de mettre en valeur ses atouts et de mettre en valeur ce qui est fait ou ses réussites. Et elles sont nombreuses, comme celles que les exemples que j'ai donnés de jeunes le sont. Je ne suis pas dans l'optimisme aveugle, hein, mais je pense qu'il y a d'énormes difficultés, je suis le premier à le reconnaître. Mais il y a une stratégie, et cette stratégie, elle passe d'abord et avant tout par l'éducation.
Alors, la difficulté, c'est aussi l'accès à l'emploi. Beaucoup de jeunes Guyanais quittent le système scolaire sans diplôme. L'obligation de formation de 16 à 18 ans que vous proposez dans vos projets de loi, comment la mettre en place pour des élèves qui ont parfois déjà décroché depuis longtemps?
Je pense que c'est typiquement une mesure, là aussi, très bénéficiaire à l'outre-mer, parce que les jeunes de 16 à 18 ans sans emploi ou sans formation sont très nombreux outre-mer, c'est autour de 20-25%. Donc ça va être un outil de lutte contre le décrochage considérable. Donc on va avoir à la fois l'usage de places qui peuvent être vacantes en lycée professionnel. On a parlé de Balata tout à l'heure, il y a un lycée professionnel magnifique du bois, par exemple, qui correspond à ces usages des richesses de la Guyane et où on peut faire des choses. Il y a le développement des centres d'apprentissage, bien entendu. Et donc nous avons, effectivement, vous avez raison de mentionner cette mesure, nous avons à travers de cette mesure un outil de lutte contre le décrochage qui va nous permettre de faire descendre encore ce taux de décrochage scolaire.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. L'école de la confiance, un défi pour la Guyane. Le grand reportage de cette semaine était signé Hakim Kasmi, accompagné de Nadia Hadjbouziane. À la réalisation, Annie Bro, avec Ali Sayed à la technique. Vous pouvez bien sûr, comme chaque semaine, réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.